Avion Nomade, le direct.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Pavillon Nomade. Aujourd'hui à la technique avec nous, nous avons Julien et nous avons le plaisir d'accueillir deux invités, Charlotte Stubby, et qui est en résidence à notre quartier culturel. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Heureux de vous recevoir. Et Chun, qui vient nous présenter son livre « Chemin de traverse ». Bonjour Chun.
Bonjour.
Et pour nous accompagner, nous avons Suzanne, Eliane, Dominique, Christine et notre nouveau civiliste, Mathéo. Encore un Mathéo. Bonjour Mathéo.
Mathéo, deuxième du nom.
Voilà. Nous allons commencer avec la présentation donc, de Charlotte. Donc, après un bachelor en art visuel à l'ECAL à Lausanne, en Suisse, vous avez poursuivi vos études en Belgique. Vous avez obtenu un master en design textile à Luca of School of Art à Gand en 2017. Vous avez participé à diverses expositions en Belgique et en Suisse, principalement. Depuis plusieurs années, vous développez un travail autour du textile, reprenant ce matériau traditionnel, populaire, classique et fonctionnel, et le revisitant, notamment en le travaillant de manière frontale, massive et imposante, à l'opposé de la méticulosité et l'introversion traditionnelle associées à certaines pratiques textiles. Utilisant les techniques de la couture, de l'appliqué, du tissage, de la tapisserie et de la broderie, votre travail est constitué d'une multitude de superpositions de formes référencées, figuratives ou non, renvoyant à des symboles, des figures plus ou moins abstraites, tirées d'observations souvent limitées à l'utilisation de couleurs primaires, ces formes et figures personnelles et collectives se transforment peu à peu en une composition narrative. Votre pratique peut être définie comme étant principalement des installations textiles narratives et des objets toujours réalisés à la main. Vous questionnez constamment les images mentales, la fonctionnalité, l'architecture quotidienne et les identités. Vos installations parlent de situations ou de souvenirs en se référant à la durée, à la fonction et à l'évolution d'objets tels qu'une trace ou un signe imaginaire. Inspiré par Marguerite Burnat-Provin, vous réalisez en résidence des dessins et gravures comme base de recherche pour un futur projet textile, mêlant paysages et figures, exposant le féminisme, la solitude et la nature. Vous tissez un dialogue entre héritage artistique et réflexion contemporaine. Alors Charlotte, pouvez-vous nous parler de vous et de votre parcours artistique ?
Ouais, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Du coup, je ne sais pas par où commencer. Oui, effectivement, je viens du canton de Vaud, autour de Vevey. Et je suis partie il y a 10 ans en Belgique. Et j'y habite toujours là-bas. Et en venant à Malévaux, c'était l'occasion aussi de revenir dans la région. Voilà, ça c'est mon parcours personnel plutôt. Quant à mon parcours artistique, effectivement, je travaille surtout le textile. Ça a commencé assez tôt. Déjà, justement, quand j'étudiais à Lausanne, je travaillais déjà ce matériau qui, pour moi, permet vraiment quelque chose de très dans le toucher, ou ouais, lié au toucher, et qui est pas salissant, qui est très pratique à utiliser et à déplacer, par exemple. Même des grands drapés, en fait, tu peux les plier, les mettre dans une valise et les transporter facilement. Du coup, il y a une facilité, et j'aime bien cette facilité aussi du matériau.
Du matériau, ouais. Et comment vous en êtes venu à la création textile et au textile et à l'art visuel ?
Je pense que j'aimais déjà bien utiliser justement la couture. Je faisais déjà pas mal de couture quand j'étais enfant, du tricot. Je pense que ma maman m'a aussi vachement enseigné ça. Et du coup, c'est venu assez naturellement justement de travailler l'installation, les objets. Et après, j'ai longuement hésité entre le social et l'art. Et du coup, j'essaye de temps en temps un peu de regrouper ça parce que c'est toujours deux choses que je trouve intéressantes à mélanger.
Et lors de votre cursus, Quelles ont été les grandes étapes ou les rencontres qui ont marqué votre développement artistique?
Ouais, c'est pas facile comme question. Je pense que les rencontres, c'est... j'ai rencontré différentes personnes, mais avec qui je collabore et que je collabore encore maintenant. Et je crois que c'est quelque chose de vraiment super important, en tout cas pour moi, dans ma pratique. C'est que j'aime bien travailler seule, mais j'aime encore mieux travailler avec du monde et de trouver des binômes ou plus de monde. Mais je travaille assez souvent en binôme et je crois que ça, c'est des rencontres qui sont fortes et qui fait qu'on crée des choses qu'on ne ferait pas seule. Et le fait d'être à deux, ça donne une énergie et on s'engraine comme ça dans des choses et d'aller un peu au-delà de nos limites.
Suzanne ?
Alors Charlotte, on est donc au sein d'un hôpital psychiatrique. Et est-ce que ça vous inspire d'être en contact avec... tous les patients qui participent à vos ateliers.
Je ne sais pas si c'est de l'inspiration, mais en tout cas, je trouve que le fait d'être entouré et d'être à la rencontre des personnes, je trouve ça vivant. Et moi, ça ne m'inspire pas forcément dans ma pratique personnelle, mais dans la narration que j'ai envie de créer, oui. Effectivement, les rencontres des personnes m'inspirent.
Est-ce que vous voyez à travers votre art la réaction des gens qui y participent? Est-ce que vous pouvez détecter certaines, je dirais pas pathologies, c'est pas ça que je veux dire, mais détecter certaines réactions? Parce que en fait, le patient n'est pas est principalement en sorte de crise quand il est là. Autrement, il est suivi ambulatoirement et il va mieux à l'extérieur. Mais j'entends quand il est au sein de l'hôpital, il est perméable beaucoup plus à quelque chose. Donc cet art, est-ce que vous pouvez partager.
Je pense que Suzanne veut dire, est-ce que vous ressentez des influences thérapeutiques en fait quand les gens viennent pratiquer l'art avec vous?
Ah oui, moi je trouve que justement en donnant des ateliers, c'est l'occasion aussi de partager un moment ensemble. Donc déjà il y a l'esprit collectif, je pense d'être tout le monde dans un même endroit où en fait, on discute et on parle de ce qu'on a envie de faire. Là, entre autres, justement, à Malévo, je propose un atelier gravure. Du coup, on discute de la gravure, de ce qu'on a envie de dessiner. Et on essaye, moi, c'est ce que j'ai en tout cas envie, d'essayer que la souffrance ou la crise ou la douleur, évidemment qu'elle est aussi au sein de l'atelier, mais on essaye de la laisser dehors et d'éprouver un peu de plaisir à créer ensemble. Et finalement, le résultat de ce qu'on crée n'est pas forcément très important, mais c'est plutôt le moment passé ensemble et justement ce que l'art peut apporter dans les ateliers, de juste passer un moment ensemble, utiliser ses mains plutôt que sa tête et laisser aller ses mains.
Eliane ?
Oups, je démonte un peu le studio là, mais ça a l'air d'aller. Moi, j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête. Comment vous choisissez les matériaux et les couleurs dans vos compositions?
Alors, les matériaux, là, je vais parler justement plutôt de mon travail personnel où je travaille beaucoup le textile. Donc ça dépend. Si c'est des textiles qui vont en extérieur, ce qui m'est arrivé, où tout d'un coup on me propose une exposition et je travaille beaucoup les bannières ou les drapeaux, donc on me propose de faire des bannières en extérieur, je vais utiliser des textiles qui sont faits pour l'extérieur, qui ont une durabilité un peu plus longue. Après, d'autres textiles qui seront en intérieur, j'utiliserai d'autres matériaux. Après, j'essaye aussi tant bien que mal, de récupérer ce que je peux que ça soit des bâches ou des choses que je récupère ou qu'on me propose. Et puis après, quant aux couleurs, ben, c'est vrai que moi, j'ai une grande influence des drapeaux, de l'héraldique de manière générale, des symboles, des marqueurs comme ça d'identité. Du coup, c'est des couleurs très franches, primaires, où en fait, c'est vrai que je travaille pas beaucoup les nuances. Donc, si j'utilise le rouge, ce sera juste du rouge. Et je vais pas avoir des dégradés de couleurs.
Eliane ?
Oui, me revoilà. Encore une question pour Charlotte. Que faites-vous que vous manquez d'inspiration ? Pardon, je voulais que je pose une autre question.
Non, c'est une bonne question. Quand je manque d'inspiration, je pense que spontanément, j'irai me promener. Après, j'ai aussi un projet qui marche assez bien. C'est que j'ai un petit métier à tisser où je fais de la tapisserie. Donc, c'est un petit métier. Et j'ai une image que j'ai dessinée il y a 2 ans maintenant. Et je m'étais imaginé faire cette tapisserie, ouais, d'en faire une par année. Et en gros, j'avance vraiment millimètre par millimètre. Et j'ai ce projet dans mon atelier. Et les jours où vraiment je ne sais pas quoi faire et que j'ai envie justement d'occuper mes mains et peut-être d'écouter quelque chose, que ce soit à la radio ou un podcast, je fais cette tapisserie où j'ai déjà, en fait, il ne manque plus que la production. J'ai déjà toute l'image et puis j'ai juste à travailler dessus. Et ça me fait du bien. Et en fait, l'esprit, ouais, l'idée méditative du tissage ou des choses comme ça répétitives, moi, je sais qu'elles me font du bien. Et voilà ce que je ferais.
Et puis, j'aimerais savoir, votre processus de création, en fait, vous mettez d'abord tout sur papier ou bien vous allez des fois de manière spontanée quand vous allez créer une œuvre, vous procédez comment ?
Alors, souvent, je crée des œuvres qui sont faites pour des lieux. Donc, ça s'appelle in situ. Donc, c'est vraiment des œuvres qui seront montrées que dans ce lieu-là et qui seront liées vraiment à cet endroit. Donc, souvent, je vais dans ce lieu-là et je cherche justement des symboles ou des images ou des choses qui représentent ce lieu ou des histoires, des récits qui sont liés à ce lieu-là. Et du coup, j'en crée un récit un peu adapté un peu à ma sauce, et tout en prenant ces symboles et souvent en les mettant à des échelles différentes. Donc peut-être quelque chose qui sera très petit, je vais le mettre très grand, et puis inversement. Et donc ça, c'est un peu un processus que je fais assez souvent, lié au lieu. Et,
Suzanne ?
En fait, c'est beaucoup du concret, alors, si je comprends bien. Il y a du subjectif, mais il y a du concret. C'est ça que je pense.
Oui, c'est plutôt assez concret.
Et puis tout à l'heure, là, vous parliez donc de, vous aviez proposé des ateliers gravure ici, donc lors de votre création au quartier culturel. Mais pouvez-vous nous parler un petit peu de cette création ? Vous cherchez à aboutir à quoi ?
Du coup, je suis venue avec un projet de gravure ici à Malévo parce qu'il y a une presse pour la gravure. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de créer des nouvelles images. Et pour moi, c'est pas en tout cas quelque chose que je fais très souvent parce que justement, comme je le disais, je travaille souvent lié au lieu. Et du coup, souvent, c'est soit des demandes ou... souvent, je suis invitée à des expos et du coup, je fais en fonction du lieu d'exposition. Et là, c'était l'occasion de créer des nouvelles histoires en lien aussi un peu avec le paysage d'ici. Et je me suis dit que la gravure, c'était un bon moyen de travailler un peu plus rapidement que le textile. Et j'avais envie de m'inspirer des œuvres de Marguerite Burnat-Provin, qui est une artiste qui a résidé dans le Valais. Et du coup, je suis partie de ça et je suis en train de faire des recherches par rapport à ces images-là.
Très bien. Et comment avez-vous entendu parler du quartier culturel ?
Un peu par hasard, parce que justement, du coup, j'habite à Bruxelles et j'ai travaillé pendant pas mal d'années comme artiste, animatrice dans un centre de jour en réinsertion, en psychiatrie, et où je donnais un atelier textile et un atelier gravure. Et j'ai quitté ce travail il y a une année et j'avais assez envie de venir voir ce qui se passait en Suisse. Et je suis tombée un peu par hasard sur Malevo, tout en connaissant un peu l'endroit. Mais je ne savais pas qu'il y avait des résidences. Et du moment que j'ai vu qu'ils proposaient ce projet-là, bah, j'ai un peu sauté sur l'occasion.
Et comment se passe cette résidence ?
Super bien.
Ça vous plaît, l'ambiance et tout ?
Oui, c'est super. Je suis très contente.
Très bien. Et avez-vous des projets futurs auxquels vous voulez nous partager avec nous, en fait ?
Pas vraiment. Non, j'ai quelques projets justement de collaboration. Je travaille aussi avec une personne qui fait du design textile, Suzanne Fischer, et avec qui on fait des objets, des vêtements, différentes choses. Mm-hmm. Donc voilà, je vais continuer à travailler sur mes projets personnels et continuer les collaborations.
Très bien, je vous remercie d'avoir participé à cette interview.
Merci à vous.
Maintenant, nous allons écouter Magdalena Salerosa de Shingon. Shingon, c'est un groupe de Roberto Rodriguez. Je ne sais pas si vous connaissez le réalisateur, en fait, qui a fait des films assez déjantés, qui travaille en collaboration avec Quentin... Tarantino. Merci, Julien.
Debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa. Malagueña salerosa y decirte niña hermosa. Yeah.
Le direct.
Tous les jeudis, Marie-Claude Cudry va à la rencontre d'une personne qui se raconte autour de Malévo. Aujourd'hui, Marie-Claude a une nouvelle fois rendez-vous avec Edith Vasquez. Edith est arrivée à Malévo en octobre 1972 pour suivre la formation d'infirmière en psychiatrie. Pour ce quatrième épisode, Edith Vasquez va nous parler de l'encadrement professionnel et du rôle de l'infirmière chef.
Les rencontres de Marie-Claude.
J'ai vécu 4 suicides chez les infirmiers. Alors je me suis dit que là, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'institution. Et de par mes fonctions que j'ai pu avoir dans ma carrière, j'ai été très sensibilisée de qu'est-ce qu'on peut donner comme soutien dans des moments qui sont très durs. Il y a la violence aussi, la violence physique, la violence psychique. Et là, avec tous mes collègues, nous avons beaucoup travaillé dans la formation. La formation et la supervision, c'est-à-dire de donner des moyens aux personnes qui vivent des situations professionnelles dures, de pouvoir les travailler et de pouvoir continuer. Parce qu'il y a aussi un turnover. Hein. La psychiatrie, c'est dur. Il y a des personnes qui, à un moment donné, sont fatiguées, elles changent. Et le tout dans ce métier, c'est de pouvoir garder le plus longtemps possible du personnel qui aime leur travail, qui ont du plaisir à travailler et qui se sentent en sécurité et qui peuvent être les mentors pour les nouveaux qui arrivent. Parce, comment on apprend son métier? Moi, j'ai appris mon métier avec les anciens. Je regardais comment ils faisaient. Et si on a un turnover qui est trop rapide, c'est le gros problème des jeunes qui arrivent parce qu'ils ont besoin des modèles autour d'eux pour pouvoir apprendre. Surtout qu'à l'époque, il y avait l'école d'infirmière en psychiatrie, mais maintenant, c'est une spécialisation qui s'apprend après avoir fait infirmière généraliste. Donc, d'où l'importance de donner de la formation et de la supervision, de pouvoir discuter de certaines situations, ne pas aller à la maison. Il y a des choses qui sont lourdes et vous ne pouvez pas en parler, ni à la maison, ni ailleurs. Il faut le travailler. Travailler où ? Ben, le travailler sur le lieu du travail avec des moyens. Il y a de la supervision, il y a de la formation. Il y avait aussi l'hypnose qu'on faisait aussi. Moi, je me rappelle d'avoir vécu une situation quand j'étais de piqué, qui était lourde, lourde. Et j'avais pu l'occasion de pouvoir faire justement une hypnose pour pouvoir essayer de dédramatiser un peu la situation. Et pour moi, la formation, c'était pour tous les intervenants. Parce qu'il y a les infirmiers, les médecins, mais il y a toute l'équipe pluridisciplinaire. Je me rappelle qu'une dame de ménage m'avait dit « Mais je suis rentrée dans la chambre, j'ai vu le monsieur qui s'était suicidé. » Donc, l'importance de donner du soutien à toute cette équipe pluridisciplinaire, de pouvoir leur donner des outils. Il y avait aussi la dame qui était à la réception, qui voyait des admissions qui étaient violentes. Il y avait la dame de la cafétéria. Il y avait tout le personnel autour, le jardinier aussi, de se dire « mais quels sont vos besoins ?» et de pouvoir mettre en place justement du soutien pour tous les professionnels dans cette organisation.
Oui, c'est très intéressant de vous entendre effectivement sur cette organisation qui ne concerne pas seulement le personnel soignant, mais tout Malévo en fait.
Tous les intervenants, même les policiers ou les pompiers quand ils vont dans des interventions, ils ont du soutien après, du soutien de crise et tout après. Donc, il était important de se donner aussi du soutien et des moyens dans le système des soins. Dans un organigramme de soins, par exemple, une chose qui était importante pour moi, il y a une fonction qui, pour moi, est, je l'ai vécue vu que j'ai été responsable d'une unité, qui est la fonction d'infirmière chef d'unité. L'infirmière chef d'unité, elle a toute une unité, elle a tous les patients, toute la famille, tout son personnel, elle a la hiérarchie au-dessus d'elle, elle a un cahier des charges, elle doit faire des évaluations du personnel, elle a une fonction clé dans l'organigramme des soins. Puis c'est la seule qui a encore tous les patients, avec tout ce que ça implique comme responsabilité. Et j'avais mis en place des supervisions d'équipe, d'infirmiers chefs d'unité. Pour moi, c'était important qu'elles soient dans leur rôle soutenu. Et de les mettre ensemble. parce que chacun est dans son unité avec ses problèmes et autres, et de les mettre ensemble pour pouvoir, dans une supervision, il y a une personne qui peut dire « Ah, mais moi, j'ai déjà vécu ça, je peux te donner ben voilà, la solution que j'avais trouvée, ça. » Et puis, il y a comme ça une certaine collaboration beaucoup plus intense après entre les unités. Elles ne sont pas hermétiques, fermées dans chaque unité, le laurier, la forêt, etc. Le fait d'être ensemble et de pouvoir partager des soucis font qu'on comprend mieux l'autre. Dans l'institution, on avait dans la direction la possibilité de mettre en place des formations internes. Je m'étais rendu compte que, par exemple, un infirmier appelait la réception et disait « c'est pas possible, il faut attendre 5-10 minutes, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis j'ai dit « mais on ne connaît pas le travail de l'autre ». Et on avait mis en place « qui veut connaître comment travaille l'autre ?» Donc, les gens pouvaient s'inscrire. La réceptionniste a pu passer, par exemple, une demi-journée dans une unité parce qu'elle comprenait enfin pourquoi, des fois, on ne répondait pas tout de suite au téléphone. Ou vice-versa, pourquoi l'infirmier, quand il appelait la réception, elle ne répondait pas tout de suite au téléphone. C'est un petit exemple, mais qui montrait qu'on ne se connaissait pas dans la fonction de l'autre. Et ça, ça avait beaucoup amélioré la collaboration et l'ambiance de l'institution.
Un hôpital psychiatrique, c'est toute une équipe qui vient nous expliquer, comme vient de nous l'expliquer Edith Vasquez dans ce quatrième épisode, une équipe solidaire et soudée. Cette rencontre avec Edith Vasquez est proposée par Marie-Claude Cudry et vous pouvez la retrouver à l'issue du dernier épisode sur le site www.pavillonnomade.ch. Moi, j'aimerais poser une question à Charlotte et Mathéo parce que vous êtes arrivé il n'y a pas si longtemps dans un cadre psychiatrique, dans un cadre qui est quand même assez particulier parce que Malévo, c'est un hôpital ouvert. Comment est-ce que vous vivez justement cette intégration?
Si moi je peux commencer à répondre, moi je la vis un peu à tâtons, étant donné que moi je ne travaille pas du tout en fait de base dans l'hospitalier, dans le médical, ni dans le social. Donc mon expérience en tant que civiliste est celle principalement d'être catapultée dans une terre inconnue. Donc j'apprends à tâtons, mais je pense qu'on apprend tous et toutes à tâtons au quartier culturel, étant donné que très peu de gens, si ce n'est même peut-être personne, n'est formé à être des médecins, des aides-soignants dans le corps de professionnels du quartier culturel. Donc j'ai l'impression qu'on apprend un peu à l'aveuglette aussi, j'ai l'impression, parce que en discutant avec des médecins qui sont résidents, comme moi je le suis en tant que civiliste dans le quartier culturel de nuit, avec qui j'ai un contact régulier, elles et eux me racontent en fait de problèmes qu'ils rencontrent dans leur travail et dont nous, en tant que résidents du quartier culturel, sommes absolument en fait pas au courant, alors qu'on est au contact régulièrement avec des patients. Donc c'est un peu à tâtons et en même temps j'aime apprendre sur le tas, mais il y a beaucoup de zones d'ombre qui rendre fragile en tout cas cette posture.
Vous penseriez que ce serait peut-être nécessaire justement qu'il y ait peut-être une sorte d'intégration au niveau médical ou quelques pistes qu'on puisse vous donner, créer un fascicule en disant voilà, s'il y a une situation de crise, voilà comment réagir. Est-ce que vous verriez une nécessité à ce qu'on vous fasse une sorte d'accompagnement, en tout cas pour la première semaine où vous êtes là?
Ouais, je pense que totalement. Moi, en tant que civiliste, en fait, avant de venir à Malévo ou dans mes affectations, je suis des semaines de formation. J'en ai fait une avant d'arriver ici à Malévo, mais qui m'a servi à peu près à rien. C'est une semaine de communication où on brasse en fait des concepts et des notions de communication non violente, mais qui sont adressées en fait à différents civilistes qui viennent de différents milieux. Donc, c'est quand même des enseignements très généralistes. Et je pense que oui, et même Charlotte, et on en a parlé quand on a pu dîner ensemble il y a quelques soirs, qu'en effet, même les artistes arrivent, comme les civilistes, comme peut-être aussi d'autres professionnels qui intègrent le quartier culturel, qui arrivent sans être formés. Donc moi, je pense que oui, ou en tout cas d'avoir un médiateur ou une médiatrice entre l'hôpital et le quartier culturel.
Charlotte.
Oui, je comprends, et c'est vrai qu'on en a discuté, mais en même temps, je trouve ça à la fois génial de rien savoir, et puis qu'il y ait finalement, nous, on n'a pas... oui, j'imagine qu'il y a des règles, mais de ne pas savoir, en fait, c'est aussi d'appréhender et d'être confronté directement. et avec son propre avis, avec sa propre expérience, et qu'au final, tout le monde se mélange. Et puis, ça crée des discussions, ça crée des rencontres. Et du coup, je trouve que c'est toujours une bonne question de savoir s'il faudrait que ça soit très carré ou en même temps, la souplesse permet aussi en fait, des moments de rencontre qui sont hyper riches et vraiment hyper beaux entre les différentes personnes qui sont engagées à l'hôpital et au quartier culturel et merci. Les patients.
Suzanne, vous voulez réagir ?
Ben moi, je me mets du côté des patients qui sont hospitalisés dans les pavillons. Eh bien, le quartier culturel est un bol d'air fameux, quoi. Parce qu'ils ont besoin de ça. Faut pas oublier. Vous êtes l'autre côté de la barrière. D'accord, vous devez montrer, vous devez faire vos preuves et vous devez faire ceci, cela. Mais il ne faut pas oublier que les patients, quand ils viennent à l'espace culturel, c'est pour échanger, c'est pour boire un café et puis d'être sympa ensemble et de trouver juste un lieu où ils ne sont pas jugés, où ils ne sont pas catalogués, où c'est juste un bol d'air qu'ils ont, une demi-heure, une heure, ça dépend la permission qu'ils ont. Et puis, le personnel, il ne faut pas penser qu'il n'est pas qualitatif. Hein. Alors, attention, ils ne sont peut-être pas médecins, ils ne sont peut-être pas assistants sociaux, etc. Mais je peux vous dire qu'ils ont la qualité, hein, tous.
Et Charlotte et Mathéo, vous avez déjà eu des situations justement où des patients viennent vous voir spécialement pour se confier, pour parler de choses, parce que ben, du coup, ils ont créé des liens avec vous. Charlotte, est-ce que vous, justement, dans vos ateliers, vous avez ces interactions qui existent ?
Oui, mais parce qu'en fait, on se rend compte au travers d'une technique que... en fait, nos discussions, elles sont liées à ça. Ou alors, c'est aussi l'occasion de discuter de choses qu'on ne parlerait pas en dehors. Ou j'imagine que... moi, j'ai souvent quand même des discussions, justement, complètement différentes que les patients ont avec les infirmiers ou les médecins ou le corps médical. Donc, effectivement, il y a une proximité, je pense, qui est super intéressante pour nous, mais... Ouais, vraiment vice-versa, pour les patients, patientes et pour nous, résidents, résidentes.
Mathéo ?
Oui, moi je retiens tout à fait aussi ce que vous dites toutes les deux, Charlotte et Suzanne, par rapport au fait que d'être artiste, d'être civiliste, c'est ne pas incarner l'institution hospitalière, et ça nous fait du bien en fait aussi. Moi, ce que je vous disais avant Suzanne, avant que l'émission commence, que... En tant que civiliste, on est une personne plus qu'on est justement une fonction ou une posture à l'intérieur de l'hôpital. Et par personne, j'entends quelqu'un qui est les patients, les patientes, mais aussi le corps hospitalier, les aumônières, les infirmiers, les infirmières, peut-être aussi les médecins peuvent se confier et parler d'autres choses que les problèmes du quotidien au sein de l'hôpital psychiatrique. Donc ça, je conçois que c'est une des responsabilités peut-être qu'on peut avoir.
Suzanne ?
Moi, je suis ni artiste, ni professionnelle, ni titrée. Seulement, je suis Vénus, c'est-à-dire j'ai expérimenté toute la psychiatrie depuis 1977, sauf erreur. Donc, je dois dire que j'en connais un petit bout de chemin. Et j'ai été hospitalisée beaucoup ici à Malévo. J'ai l'expérimentation des médicaments en assiduité pendant 20 ans, sans hospitalisation. Mais je peux vous dire que le schéma, il est ardu. Donc, c'est pas que je veux me mettre en avant, mais ce que je parle, c'est par expérience. C'est pas des...
Et Suzanne, vous trouvez important justement qu'il y ait des artistes, des civilistes,
oui, absolument.
Et qu'il y ait une interdisciplinarité comme ça de personnes en fait qui font pas partie du corps médical, ça.
Ah pour vous, oui, c'est ça que je veux dire, que je disais tout à l'heure. Non, surtout pas, surtout pas. Allons pas mettre un médecin là-dedans. Ah non, non, il y en a assez dans les pavillons. Eh, restez chez vous.
D'accord.
Bientôt, nous allons retrouver en interview Chun, mais en attendant, nous allons écouter Diamonds and Rust de Joan Baez. Et c'est une dédicace de la part de Joël que l'on embrasse. Maintenant, nous allons accueillir Chun. Bonjour Shun.
Bonjour. Bonjour à tous.
Donc vous allez venir nous présenter votre biographie. J'aimerais juste citer dans votre préface une phrase qui vraiment m'a touché. Donc écrire sans armes pour laisser une trace, écrire pour évacuer les états d'âme pour que rien ne s'efface. C'est magnifique, c'est très inspirant.
Merci beaucoup.
Je vous en prie. Donc, vous êtes venu nous présenter vous brièvement. Donc.
Je m'appelle Shun, je suis originaire de Corée du Sud, je viens du Valais Central. J'ai été adoptée en Valais Central et puis j'ai 60 ans. Et puis mon écriture a toujours été mon exutoire. Et puis je suis mariée, j'ai 4 enfants, je suis divorcée. Et voilà, pour le moment, c'est comme ça.
Mais dites-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire votre biographie ?
Alors, ma biographie a été poussée surtout par mon ergothérapeute, parce que moi, j'ai écrit depuis 1984, parce que vu mon enfance et puis ma jeunesse très chaotique avec mes parents adoptifs, ma seule manière de m'exprimer, c'était l'écriture. Donc, j'ai toujours écrit depuis 1984. Et quand j'ai fait ma toute première hospitalisation ici à Malévaux, j'ai rencontré mon ergo qui a vu en moi les possibilités d'écrire, le pouvoir d'écrire. Et donc, elle m'a conseillé, donc ça fait déjà 13 ans en arrière, conseillé pour écrire un livre. Et puis là, je me suis un peu foutu de sa gueule, on dira en bon français, en disant je ne suis pas capable. Et le temps a passé. Et je l'ai suivi dans son cabinet privé. Et il y a 6 ans en arrière, elle est revenue à la charge avec la biographie, l'autobiographie. Et puis j'ai dit, écoute, laisse-moi du temps. Et puis 2 ans après, je me suis lancée.
Donc votre biographie s'appelle « Les chemins de traverse ». C'est aux éditions Soleil Blanc. Donc, faire la paix avec son passé, résumer en quelques pages les années de tourmente n'est pas aisé. La peur de se dévoiler est éprouvante. Je ne peux que penser ces blessures pour refaire cette vie, une vie plus harmonieuse, sans honte et sans déni. Donc, quels ont été les grands tournants de votre vie quand on vous lit ? C'est tellement touchant.
Les tournants de ma vie ont été surtout le divorce, qui m'a énormément touchée. Ensuite, j'ai plongé dans l'alcool pendant 20 ans, si ce n'est plus. Entre deux, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mes enfants, mes 2 derniers enfants qui ont fait des 400 coups. Et puis, j'ai toujours écrit, malgré tout. Et mon tournant dans ma vie, ça a été Malévaux. Ça a été Malévaux parce que ça a été ma bouée de secours plusieurs fois. Et ça fait maintenant 9 ans que j'étais plus revenue. Et je suis revenue il y a 2 mois avec beaucoup de déceptions en moi parce que je pensais ne plus jamais revenir. Donc le mot « jamais » ne reviendra plus. Mais autrement, ça a été une excellente expérience les 3 semaines que j'ai passées à la forêt la dernière fois.
Très bien. Comment décririez-vous votre biographie en quelques mots ?
Alors, ma biographie, c'est vraiment c'est ma vie, tout simplement, dans sa simplicité, dans sa vérité et dans sa formule depuis l'âge d'une année et demie jusqu'à mes 50 ans, 55 ans, on dira. C'est tout le parcours de ma vie, c'est tout le parcours de mes galères, surtout. Et j'ai toujours écrit, mais je n'ai jamais écrit quand tout allait bien. Et j'ai toujours écrit quand tout allait mal. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je ne suis pas une personne qui parle beaucoup de moi ou qui demande à l'aide. Donc la situation salvatrice pour moi, ça a été l'écriture.
Très bien. Donc il y a Eliane qui aimerait rebondir.
Oui, je voulais rebondir en fait sur une question à qui s'adresse ce livre ? Que diriez-vous à ce sujet ?
Alors, en tout premier, pour pas être égoïste, ce livre a été adressé à moi. Ensuite, il a été adressé surtout pour des patients qui ne voyaient pas le bout du tunnel ou qui sont au fond du gouffre. Ça a été d'abord une thérapie pour moi. Et ensuite, c'était plutôt pour aider des personnes qui étaient vraiment au fond du gouffre et qui, malgré tout, leur donner un peu d'espoir que la lumière au bout du tunnel, on peut la trouver. Après tant d'années, après tant de mois, après tant de jours, ça dépend tout de la personne. Et maintenant, la biographie, elle est destinée plutôt aux membres hospitaliers psychiatriques spécifiquement et à des personnes qui voudraient le lire par après. Mais en tout premier, c'était pour moi.
Suzanne.
Je reprends mon souffle. Oh, madame, je suis sidérée.
Je m'excuse.
Je n'ai pas écrit ce livre pour vous pleurer.
Oui, je sais. Mais moi, c'est extraordinaire ce que vous dites. Que vous osez formuler tout ça. Je suis désolée.
Ça va aller, Suzanne.
Je suis désolée, madame, mais vraiment, c'est magnifique.
Merci.
C'est magnifique. Et je vous dis bravo, vraiment.
Merci.
Vous allez pouvoir effacer tout ça.
Effacer, je ne pense pas.
Oublier,
non plus. Mais passer par-dessus et vivre, continuer à vivre différemment, oui.
Mais là, vous avez la gravité encore, mais je trouve que... Ouais, c'est très parlant ce que vous faites. J'aimerais bien prendre votre livre.
Avec plaisir. Votre livre, plaisir.
Donc, Shun, qu'espérez-vous que justement les lectrices et lecteurs retiennent quand ils vont lire votre biographie ?
Déjà, je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce que j'ai vécu. Je suis certaine qu'il y a des personnes qui ont vécu peut-être plus grave, plus dramatique que moi. La seule chose que j'espère leur donner, c'est de l'espoir. Surtout de l'espoir et croire en la vie. Qu'il faut s'accrocher, rester humble. Surtout rester humble et puis ne pas être dans le déni. Surtout. Parce que si on est dans le déni, on n'arrivera pas en avant.
Et que diriez-vous à quelqu'un qui voudrait écrire sa propre autobiographie, mais qui n'ose pas ?
Moi, je dirais, lancez-vous. Même si c'est des mots, faites parler votre cœur, surtout. Lancez-vous. Si vous avez besoin d'aide, vous trouverez toujours quelqu'un à vos côtés pour écrire. Mais c'est une manière de parler de soi-même, même si ça ne va pas paraître, mais essayez déjà d'écrire. Et si jamais, je peux être à disposition pour aider à écrire un livre à une personne qui n'oserait pas, à formuler des phrases. Mais ça aide beaucoup. Pour ceux qui ont de la peine à exprimer par des mots, mettre des mots sur des mots, sur les mots, ça aide beaucoup. Lancez-vous.
En tout cas, vous êtes un exemple. Hein. Merci beaucoup. Vous avez eu beaucoup de courage pour écrire cet ouvrage. Je terminerai en vous citant une nouvelle fois. Donc, de cette fillette de 8 ans à cette future femme de 19 ans, il ne reste que des douleurs physiques et mentales. Mais pour moi, rien dans ce monde n'est une fatalité. L'espoir d'un mieux, l'espoir de liberté et réalité. Merci beaucoup, Shun.
Merci à vous.
Et maintenant, nous allons écouter L'exil et l'asile de Barbara Parvi et les femmes de la collective d'Arles.
Nous sommes reconstruire et nous sommes territoire.
Nous sommes un mélange de lieux, nous sommes un mélange de langues, nous sommes une blessure, nous sommes un départ, nous sommes reconstruire, nous sommes territoire, nous sommes un mélange de vide, de richesse, de route et et d'espoir. Nous sommes des prénoms, nous sommes des cultures. L'exil et l'asile, voilà notre histoire. Nous sommes un mélange de choix, de paysages, d'odeurs et d'aurores. Nous sommes brûlures, nous sommes oubliés. Nous sommes murmures, nous sommes transformés. Nous sommes un mélange infini de promesses, de doute et de gloire. Mais est-ce important de nous définir? L'exil et l'asile, voilà notre histoire.
Important de nous définir, l'exil et l'asile, voilà notre histoire.
Voilà, nous venons d'entendre Shun tout à l'heure, et je rappelle donc son autobiographie, donc Chemin de traverse, aux éditions Soleil Blanc. Maintenant, il y a Suzanne qui a envie de nous parler d'un thème, mais je pense qu'il peut parler à tout le monde, hein, et qui peut être assez générique. Donc, c'est qui même me suivent ou me suit. Alors, Suzanne.
Je suis très franquem. Je m'appelle Suzanne, donc. Hein, je suis très franquem, très direct, très carré. J'ai une petite valise avec moi. C'est toute petite, c'est comme un sac à main, quoi. Seulement, cette petite valise, c'est ma valise diplomatique. Seulement moi, je ne suis pas diplomate. Jamais. Et je le resterai.
On confirme.
Donc, j'envoie-toi la figure s'il faut. Hein. Donc, c'est carré, il n'y a pas d'angle rond. Hein. Bon, alors, par contre, j'ai beaucoup d'humour. Et je ne suis pas mauvaise de fond. Voilà. Quand je dis quelque chose à quelqu'un, c'est vraiment... je ne suis pas mauvaise. Mais seulement, c'est plaf ! Vous voyez ? Parce que je vais vous dire pourquoi. Pas simplement que j'ai pris que des baffes dans ma vie. Que ça. Chez moi, il y a sur la porte un gros panneau qui est marqué « Stop ». En gros... Et puis, il y a un petit truc joli, joli en couleur. Et puis, dessous, il y avait marqué « Bienvenue
». Vous êtes très ambigu, hein, Suzanne, quand même.
Mais seulement, j'ai enlevé le « Bienvenue », je l'ai mis à la cuisine. Donc, j'ai dit, si je reçois quelqu'un, ça veut dire qu'il a pu passer la porte. Hein, ou elle a pu passer la porte. Puis dans la cuisine, je reçois dans la cuisine, et bienvenue.
Et qu'est-ce que les autres en pensent de cet adage-là, qui même me suivent, hein, Mathéo?
Qui même me suivent, Bon, c'est faire cavalier seul. Enfin, en tout cas, c'est prendre le risque de faire cavalier seul. Mais cavalier seul vaut mieux que d'être accompagné que de gens qui ne veulent pas la peine. Suzanne, vous êtes d'accord avec moi ?
Tout à fait d'accord, parce qu'il faut faire très attention avec les gens. Les gens, vous savez, des fois, ils se déguisent en petit agneau. Hein ? Et puis là, flar, tout d'un coup, ils vous bouffent. Non, mais c'est vrai. Bah, si vous commencez à faire confiance, bah, si celui-là, celle-là, vous allez être déçu tout le temps. Parce que tout d'un coup, il y a un moment donné où la personne vous déçoit. Et moi, franchement, je suis sur mes gardes, et même au niveau de la famille, parce que je dis, t'as pas compris, ok, mais alors... tu me fais pas chier, quoi, c'est ça. T'as pas compris ? Eh ben, essaye d'apprendre à comprendre. Et puis après, tu reviendras. Ça veut pas dire que j'aime pas la personne. Parce que ma famille, c'est précieux. Mais je ne veux pas que ma famille me blesse. Alors, si elle me blesse, alors je dis non. J'ai dit, c'est fini. Ces blessures, je ne les veux plus.
Suzanne, vous me parliez d'une sœur hein, qui habite à Salins.
Oui.
Donc, avec votre sœur, vous avez quoi ? Vous m'avez dit 10 mois.
10 mois et 10 jours de différence.
Ouais.
Ouais.
Et donc, vous allez souvent faire des retraites à Salins ?
Oh, des retraites, non, mais on se voit. On s'est vu souvent, puis on se WhatsApp.
Oh. Et vous avez des passions communes ?
Ah oui, un instrument, ben c'est pas le même, mais on a le même look, le même caractère, le même. Elle est performante en sport et en médaille d'or, en marathon et tout, mais elle se pousse à fond parce qu'elle veut se prouver à elle-même des choses. Elle a fait le chemin de Compostelle, enfin, entre autres. C'est une femme de tête, comme moi. Et ça, on a hérité ça de notre maman, qui était une femme de tête, malgré la catapulte qu'elle a fait avec moi. Voilà.
La catapulte.
Ouais, elle m'a rejetée, carrément. Ah,
voilà.
Ouais, je suis née dans la cuisine, la seule, on était quatre. La seule dans la cuisine. Et elle m'a pas voulu quoi. Moi aujourd'hui, je mangeais du porridge. Et puis c'est du porridge que je déteste, avec des raisins secs. C'est tout ce que j'avais à manger dans mon frigo et du lait. Il me restait du lait. Et j'ai fait le rapprochement. Je me suis dit, mais Suzanne, c'est le seul repas que tu te rappelles jusqu'à ton âge de 5 ans. Mmh. Et c'était à l'hôpital. Que j'ai mangé ça.
Et vous avez d'autres frères et sœurs alors ?
Oui, j'ai eu un frère aîné de 2 ans, mon aîné, mais il est décédé. Et puis j'ai un frère cadet, artiste.
Ah, il fait quel genre d'art ?
Il fait beaucoup de musique, beaucoup d'instruments. Il parle beaucoup de langues. Il a beaucoup voyagé. C'est un artiste, quoi. Il est menuisier entrepreneur. Et puis voilà, j'ai eu donc un frère décédé qui était facteur dans le village. Tout le monde l'aimait, mais voilà, elle est décédée. Et puis j'ai donc ma sœur qui a fait la police toute sa vie. Donc je suis bien chapeautée.
Donc votre sœur qui est passionnée donc, de sport et qui habite Salins.
Oui, voilà. Exactement, j'en ai qu'une de sœur.
D'accord.
Voilà.
Ah ben, je vous remercie. Quelqu'un veut réagir encore sur qui même me suive ? Non. Alors, donc, nous allons gentiment finir cette émission. Elle va toucher à sa fin. Nous allons écouter, donc, comme dernier morceau, Rolling 7S de Dirty Honey. Et jeudi prochain, ça sera Marie-Claude qui sera là à l'antenne. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je remercie donc Mathéo, Charlotte, Suzanne, Eliane, Dominique, Christine. Et merci beaucoup pour le témoignage et la présentation de votre biographie, Shun. Et je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée. Oui, Mathéo.
Est-ce que je veux faire une dédicace, vu qu'on parlait de Saint-Jacques de Compostelle, enfin Suzanne juste à l'instant, en parlant de sa sœur. Dédicace à Nico, qui dans quelques jours, qui travaille au quartier culturel, part sur les chemins de Compostelle. Donc on lui souhaite beaucoup de plaisir et bonne chance et bon camino.
Et merci Julien pour la technique.
Jack, and you'll be the queen. 'Cause now you're